à Rencontre spirituelle. Aujourd'hui, nous allons en effet rencontrer Ernest Psychary, qui est mort un 22 août 1914. Il était le petit-fils d'Ernest Renan. Et sa vie, trop courte, est une vie remplie, et l'un de ses livres qui a été lu par quantité de gens, et j'espère qu'il est encore lu, c'est « Le voyage du centurion », qui avait d'ailleurs été publié durant la guerre à Montréal. Et il a écrit aussi « L'appel aux armes » et d'autres ouvrages qui ont été très lus. Et je me souviens d'avoir acheté en 1947 un très beau livre qui se vendait 100 fois rien, admirablement bien édité par l'Art catholique. C'était des éditions superbes. « La vie d'Ernest Psychary » par Henri Massis. Et mon vieil exemplaire du voyage du centurion, j'ai trouvé ça dans ma bibliothèque. Avec beaucoup de joie, ça me rappelle de vieux souvenirs. Car Ernest Psychary a nourri l'enfance et la jeunesse de quantité de Québécois et de Québécoises. Et que dire de ce que c'était en France. C'est aujourd'hui aussi une grande fête. C'est la fête de Marie comme reine. Oh, ça ne veut plus rien dire, une reine, un roi. La plupart des gens ne s'intéressent à ça que pour parcourir des revues comme Point de vue et d'autres revues qui nous parlent des rois et des reines. Ça fascine lors d'une réception, d'un voyage. Mais ce qui arrive à la famille royale en Angleterre, avec tous les enfants qui sont dans des difficultés matrimoniales de toutes sortes, n'aide pas au caractère de la dignité qu'on attribuait autrefois aux rois et aux reines. Mais quand on lit l'histoire, on s'aperçoit que ces gens-là se sont pas toujours très bien conduits, mais s'ils ont fourni à la sainteté beaucoup de gens, hein, des saints rois et des saintes reines. Je vous en ai déjà parlé, nous en parlerons à nouveau. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Donc, la fête de Marie-Reine, je voudrais en dire un mot au tout début, c'est l'octave, n'est-ce pas, de l'Assomption, octave qui vient du mot 8, n'est-ce pas? C'est le 8e jour après l'Assomption, qui était célébrée la semaine dernière le 15 août, je le dis pour des gens qui seraient bien éloignés du christianisme ou du catholicisme et qui écoutent cette émission. L'Assomption, c'est-à-dire la montée au ciel du corps de Marie, mère de Jésus. L'Écriture, c'est-à-dire la Bible, la tradition, la théologie, attestent, dit-on par des voies convergentes, ce couronnement royal de Marie. C'est pas un couronnement avec une couronne, là. Ne nous imaginons rien de ces choses-là. Hein. On trouve dans la Bible, dans Saint-Luc, au premier chapitre, dans l'Évangile de Saint-Luc, la salutation angélique, le « Je vous salue Marie » que les catholiques récitent et que nous récitons à Radio Ville-Marie le soir à 7h. C'est précédé d'un quart d'heure de méditation sur la Vierge, je le rappelle au cas où les gens ne le sauraient pas. Et à 7h, il y a le chapelet qui est souvent fort bien récité, soit par des jeunes gens. J'ai entendu des fois, c'est admirablement bien récité, ou bien par le pape et par certaines autres personnes. Parfois, le récite moins bien, mais enfin, que voulez-vous. On ne peut pas toujours avoir la perfection. C'est une émission réalisée par Jésus, Marie et Notre Temps, ce journal qui est très populaire et dans lequel on peut trouver des articles extrêmement intéressants. Hein. Donc, la salutation angélique, le « Je vous salue Marie », s'adresse à la mère du Christ, mais du Christ roi, au fond, puisqu'il est roi. Elle est donc reine. On dira bien non, un fils peut être roi et sa mère ne peut ne pas être reine. Mais les pères de l'Église, tous les grands auteurs spirituels, les théologiens des premiers siècles, ont proclamé la royauté de Marie. Ça a été résumé d'ailleurs par le pape Pie XII. Jésus est roi des siècles par nature et conquête, et Marie est reine par grâce, par alliance divine, par conquête et par élection particulière. D'ailleurs, la liturgie exalte souvent Marie comme reine et souveraine, qu'il suffise de noter aux brévières, les trois chants Mario, 3/4, je vous les rappelle dans leurs mots latins que je traduirai Ave Regina Celorum. On chantait ça autrefois. Salut aux reines des cieux. Regina Celi, reine du ciel. Salve Regina, tout le monde connaît ça, on l'entend le matin parfois ici à Radio Ville-Marie, car il y a du chant grégorien, je vous le rappelle, tous les matins de 7h à 9h. Salve Regina, salut aux reines. L'art, d'ailleurs, nous montre très souvent dans des tableaux Sainte Vierge, ou la Sainte Vierge, n'est-ce pas? On dit des vierges souvent dans des textes, mais c'est toujours la même, qui est en majesté, les reines. Bon. Mais les reines, comme dit un auteur en 1970, elles demeurent toujours une humble fille, une petite femme juive, humble, simple, qui allait chercher de l'eau au puits, comme on peut le voir à Nazareth, on peut aller voir ce puits qu'on dit être le puits dans lequel elle puisait son eau. Elle faisait la cuisine, elle a élevé un garçon, qui était le fils de Dieu, mais qui joua la balle avec ses voisins, qui courait, qui un jour lui a échappé, ils l'ont retrouvé, son père et sa mère, son père adoptif, Joseph, ils l'ont retrouvé au temple de Jérusalem. Après 3 jours de recherche, imaginez, il avait 13 ans, elle a eu les angoisses d'une vraie femme, d'une vraie mère. Et la grandeur d'une personne se fait par son adhésion à la volonté de Dieu. C'est pourquoi il y a cette émission que j'anime ici. C'est une émission pour nous montrer que les saints, qui sont les plus grands hommes de la terre et les plus grandes femmes de l'histoire, sont grands pas parce qu'ils ont fait des choses nécessairement extraordinaires, mais parce que leur volonté amoureuse était intimement unie à cette douce et tendre volonté amoureuse de Dieu. Je vous ai dit que je vous parlerai d'Ernest Psychary, petit-fils de Renan. Il est mort à 40 ans, en 1914. Il était né en 1883, soit 2 ans après mon père. La rue de Rennes à Paris, que beaucoup d'entre vous connaissent, commence à l'église Saint-Germain-des-Prés. Ça peut sembler étrange que je vous dise ça, mais c'est important. Son tracé a recouvert l'ancien jardin des Carmes, dont il sera question très bientôt, le 2 septembre, car c'est là que furent massacrés, en 1792, le 2 septembre, plus de 150 prêtres, dont un Montréalais, André Grasset, dont le nom est assez connu à cause du collège André Grasset, qui n'est pas tellement loin ici de Radio Ville-Marie. C'est là aussi qu'a été tué un des grands-oncles d'Hubert de Ravinel, dont je vous parlais tout à l'heure, l'abbé de Ravinel. 150 prêtres, c'est terrible. On a pu voir ça à la télévision il n'y a pas si longtemps dans un film qui commémorait la Révolution française et qui nous relatait les événements divers de cette révolution étonnante. Or, à la hauteur à peu près où furent retrouvés en 1867, lors du percement de la rue, les ossements des martyrs, c'est là que se situe le fameux numéro 96 de la rue de Rennes. C'est dans cet immeuble au 5e étage qu'est né Ernest Psychary, le 29 septembre, à la fête de Saint-Michel, en 1883. Il est né donc, pour ainsi dire, sur les ossements des martyrs. Son père, Jean Psychary, était professeur au Collège des hautes études. Mais sa mère, Noémie, était la fille de Cornélie Schaeffer et d'Ernest Renan, le fameux Ernest Renan qui a été un des ennemis les plus jurés de la foi catholique la plus sérieuse. Alors, il y avait donc des hérédités diverses. Il y avait une hérédité grecque et latine par Jean Psychary, bretonne par Renan,
hollandaise par les Schaeffers. Il y avait un mélange, sur le plan religieux absolument étonnant, du catholicisme celtique, si on peut dire, du protestantisme hollandais, du christianisme grec-orthodoxe. En somme, Jean Psychary et sa femme pensaient, eux, avoir dépassé toute croyance. Pourtant, l'arrière-grand-mère Psychary, elle, était très pieuse. C'était une grecque orthodoxe et elle a désiré que l'enfant soit baptisé dans sa religion. Et le 25 novembre, deux mois plus tard, le prêtre orthodoxe s'est rendu au domicile des Psychary, rue de Rennes, et le bébé a été immergé totalement dans l'eau baptismale, tandis que la formule du sacrement était prononcée. C'est un peu différent de la nôtre. Ernest est baptisé au nom du Père et du Fils et de l'Esprit. Et c'est de ce baptême, si oublié cependant, qu'Ernest Psychary a écrit à propos de la grâce de sa conversion, « Elle me venait de l'eau de ce baptême, que j'avais eu le bonheur de recevoir, étant l'enfant emmailloté de l'ange, l'enfant qui ne sait pas. À travers mes 30 années de déréliction, la grâce baptismale rejaillissait. » On peut dire, oh, c'est mieux d'attendre 18 ans que l'enfant choisisse. Mais c'est qu'on ne croit pas à la grâce du baptême, et voilà que lui, la grâce du baptême, l'a animé et l'a amené dans les bras de Dieu. Quand naît ce premier petit-fils, Renan est à l'apogée de sa gloire. Académicien, administrateur au Collège de France, l'auteur de la vie de Jésus, naît pour les petits Psychary qu'un bon grand-papa. Car Renan était réputé pour sa vie de Jésus qui avait fait scandale. Et le 2 octobre 1892, parmi les funérailles fantastiques d'Ernest Renan, les discours, ça fut fantastique pour le petit garçon qui s'est toujours souvenu de son grand-père. Il a toujours gardé les œuvres de son père, c'est-à-dire de son grand-père, dans sa chambre. Ernest avait 9 ans. Et il a fait ses premières classes, donc, au lycée Montaigne. Ernest a surtout la passion des lettres. Il sait une quantité de vers par cœur. Le jeudi, il va au théâtre de l'Odéon, et c'est encore le quartier, n'est-ce pas, tout près. Il va là applaudir les classiques. En Bretagne, devant un auditoire de petites paysannes, on dit qu'il a déclamé « Les pauvres gens » ou quelques autres poèmes de Victor Hugo, pas pour... par l'esprit de gloriole, mais c'était pour faire partager son plaisir. Car cet enfant-là est très très sympathique. Hein? Il n'a rien à lui. Il prête, il donne toutes ses affaires. Et sa mère est bien souvent complice, d'ailleurs, de ses charités. La fille de Renan. La famille, finalement, émigre de la rue de Rennes à la rue Claude-Bernard et du lycée Montaigne. Ernest passe au lycée Henri IV. Et c'est là qu'en octobre 1898, il se lie d'amitié avec nul autre que Jacques Maritain, qui n'a qu'un an de plus que lui. Le fameux Jacques Maritain, l'un des plus grands penseurs et philosophes catholiques de ce siècle. Hein? Un saint, à mon avis. Je vous parlerai un jour de Jacques Maritain, que j'ai connu personnellement. Ernest Psychary, pendant sa scolarité, a déjà noué pas mal d'amitiés éternelles, si on peut dire. Mais celle-ci, avec Jacques Maritain, ne s'est jamais démentie. Il dit un jour, « Jacques Maritain et moi, nous ne faisons qu'un. Ce qu'il pense, je le pense. Ce qu'il fait, je le fais. Ce qu'il sent, je le sens. » Cette fusion de leurs âmes devait les entraîner ensemble, on peut dire, jusqu'au plus haut sommet. Et ce petit-fils de Jules Favre, oui, il était petit-fils de Jules Favre, protestant et agnostique, notre Maritain. Sa mère, Geneviève Favre, qui était divorcée, elle avait repris son nom de jeune fille, a accueilli comme un second fils ce nouvel ami de Jacques, Jacques Maritain. C'était une femme exceptionnelle. Ernest lui a voué un véritable culte. Ils ont échangé des correspondances extrêmement intéressantes. Et dans la famille Psychary, qui se croyait libérée du christianisme, bon, on a vu fleurir les plus authentiques vertus chrétiennes. Très naturellement, très spontanément, la bonté, l'amour de la justice, une véritable religion du beau et du vrai, le culte du devoir, la passion de la science. Mon Dieu, qu'on est loin de la plupart de nos familles. Quand je vois Comment nos enfants sont-ils vus? Je les regarde dans le métro s'asseoir à la place de leurs parents, mangeant des chips, etc. Mon Dieu! Dans cette famille, libérée, disait-il, du christianisme, il y avait la bonté, l'amour de la justice, une véritable religion du beau et du vrai, le culte du devoir, la passion de la science. C'est ça qu'il faut donner à nos enfants. Absolument, hein? C'est ce qu'il faut faire. Leurs amis, d'ailleurs, s'appelaient Berthelot, Jaurès, Reclus, Zola. Des gens qui sont peut-être pas des catholiques, c'est sûr, mais des gens qui réfléchissaient et qui essayaient de faire autre chose que de perdre son temps. Et en ce temps-là, il y avait l'affaire Dreyfus qui déchaînait des orages, et le procès de ce juif. Le socialisme enthousiasmait tous ces bourgeois-là. Ernest se lance dans la création des universités populaires. Il est tout jeune, hein? Il organise des soirées au Faubourg Saint-Antoine. Il initie les ouvriers à son cher auteur préféré, Victor Hugo, dont je vous parlerai un jour, à Ibsen, dont je vous parlerai aussi, et même à Anatole France, cet ennemi épouvantable du catholicisme, dont je vous parlerai aussi, parce que c'est très intéressant, Anatole France, qu'on dise ce qu'on voudra. Il y a des choses chez lui qui sont curieuses. Il a fait énormément de tort à l'Église catholique, mais c'est quand même intéressant. Car il y a des valeurs chez Anatole France. Et quand Ernest revient chez les Maritains, raconter tous ses exploits, il y a, près de sa grande amie, quelqu'un qui l'intéresse beaucoup, là, c'est Jeanne. C'est la sœur de Jacques Maritain. Elle est attirante, elle a les cheveux bruns d'une longueur extraordinaire. C'était, à l'époque, la beauté des femmes, d'avoir des cheveux longs. Et Psychary s'éprend jusqu'à la folie de cette fille. Mais elle ne l'aime pas comme un futur mari, elle l'aime simplement comme un jeune camarade. D'ailleurs, elle a 7 ans de plus que lui, puis elle songe à se marier avec quelqu'un d'autre. Et depuis sa rhétorique, Ernest Psychary s'est mis à travailler sérieusement. En 1903, donc à 20 ans, il est licencié de philosophie. Moi aussi, j'ai pris ma licence de philosophie à l'Université de Montréal. C'est très intéressant que d'étudier la philosophie dans une université. Il a terminé ses études au lycée Condorcet. Là, les Psychary ont abandonné la rive gauche, c'est pas, on le sait, ils habitent maintenant sur les pentes de Montmartre, là, pas loin du Sacré-Cœur de Montmartre, sur la rue Chaptal. Et bien que Jacques Maritain habite toujours rue de Rennes, les deux amis restent très près l'un de l'autre. Et puis, un jour vient où Jacques essaie de raisonner Ernest Psychary au sujet de sa sœur, en vain. Et même Jeanne Maritain, elle-même, s'efforce de calmer l'ardeur d'Ernest Psychary. Et puis, elle est fiancée à un autre, puis elle se marie. Alors là, la santé morale, la santé physique chez Ernest Psychary flanche. Et le pauvre gars, qui est très amoureux et qui se sent éconduit, est terrifié. Il fait un voyage, mais ça guérit pas son corps. Quant à son âme, ce n'est pas son âme qui est engagée dans les plaisirs qu'il s'accorde, ne retire d'ailleurs qu'amertume et dégoût dans les plaisirs de la chair. Un pas de plus et c'est le suicide. Même il le tente par 2 fois le suicide au cours de la même nuit, avec du poison puis avec un revolver. Mais un ami le sauve et Dieu davantage encore. Et pendant quelques mois, Ernest Psychary lutte avec tous ses démons intérieurs. Il fuit la maison. Il se fuit lui-même. Un sursaut le sauvera, il s'engage, il sera soldat. Et en décembre 1903, à 20 ans, il est au 51e bataillon d'infanterie à Beauvais. Il a trouvé son climat, l'obéissance. Il est rapidement nommé sergent. En décembre 1905, 2 ans plus tard, il rend ses galons. Il s'engage à nouveau, mais là, au 1er régiment d'infanterie coloniale, et il veut faire campagne en Afrique. Que de ce milieu Psychary intellectuel et antimilitariste surgisse ce jeune guerrier, c'est toute une surprise pour tout le monde. Hein. L'évolution d'Ernest Psychary est commencée, et ce n'est pas en vain qu'il s'est lié d'amitié avec Peggy. Le premier contact de Psychéry avec l'Afrique, c'est lui-même qu'il dit dans le livre qu'il a rapporté, Terre de soleil et de sommeil. C'est le silence d'abord qu'il frappe, ce grand silence de l'Afrique. En France, le silence même de la campagne est plein de bourdonnements ailés, dit-il, et de murmures confus. Mais le silence de l'Afrique est total, subtil et malfaisant. Les hommes qui forment la colonne là, ont aussi leur silence. Hein. Il faut se résigner à ne jamais rencontrer leurs âmes étranges et inachevées. Ils parlent des gens qui forment les indigènes, qui forment les... qui portent les paquets, les armes, etc. Et parmi les porteurs noirs, Ernest Psychéry, qui est devenu maréchal des logis, a distingué un jeune baïa, aux grands yeux étonnés. Il est frêle. Et le chef, Psychéry, ne lui impose comme fardeau que son fusil. Ce jeune, qui s'appelait Sama, est fier de la confiance de Psychéry. Il joint à son fardeau une petite cithare à deux cordes, faite dans une vieille calebasse, de laquelle il tire une musique plaintive, une musique qu'on entend parfois, hein, sur certains disques rares. Et à mesure qu'ils s'éloignent de leur pays, ben les baïas, qui étaient joyeux, deviennent mélancoliques. Et Sama, le jeune Sama, est maigri, la fièvre ne le quitte pas, la nostalgie l'envahit. Et là, le petit banjo ne le console plus. Il mourra un soir, tandis que Ernest Psychéry lui apporte des fruits puis du lait. Il lui dit, tiens, Sama, mange, bois. Et le petit garçon répond, je te connais, Marzi, je te connais bien. Ça veut dire ça, je t'aime bien. Et les baïas, ses frères, la tribu chante toute la nuit leur chant funèbre en l'honneur du petit Sama. Puis, à l'aube, ils l'enterrent sous un grand arbre. Dors, petit baïa. Sur le mystère ami de ton être s'est abattu le mystère plus sombre de la mort. Que la paix des grandes plaines dorées descende sur toi, c'est leur chant. Et cette paix, ben, Psychéry pense l'avoir rencontrée quelques jours plus tard au pays des Foulbés, les fameux Foulbés, c'est une peuplade islamisée. Il écrit toutes les sévérités, toutes les aspérités de nos âmes chrétiennes disparaissent devant la grande, la définitive paix de l'islam. Cet islam du centre de l'Afrique n'est pas fanatique comme celui du Nord, hein, c'est pas celui des Arabes. C'est une sorte de rêve mystique, dans lequel l'âme se plonge tout entière. Il écrit d'ailleurs, l'islam n'est pas une partie des Foulbés, comme le catholicisme est une partie de nous-mêmes. Il est la trame de leur vie, il est eux-mêmes. Cette citation, puis la précédente, rend un son nouveau, un Psychéry, semble attester par là, son appartenance à la chrétienté, et mieux même à la catholicité. Il ne connaît pas encore, mais il ne tarderait pas à en rencontrer, des chrétiens, pour lesquels la religion est aussi la trame de la vie. Là-bas, en France, il avait rencontré Jacques Maritain. Bon, il a déjà dit, Jacques et moi, nous sommes un. Or, Jacques Maritain vient de découvrir la foi. Il écrit à Ernest Psychéry, « J'espère, Ernest, que de ces solitudes, tu nous reviendras croyant en Dieu. » Oh, la grâce est à la porte. Mais pour qu'elle pénètre dans ce cœur, il faut qu'il soit entièrement vacant. Et ça, c'est l'Afrique, avec son soleil brûlant et son vent des sables, qui balayera toute la place de son cœur. Il dit, il écrit, parmi ce désordre, où le cœur pourrait-il se fixer? Notre vie elle-même nous apparaît un semblable désordre, une mer sans phare, où notre esprit vacille dans le vertige. Où notre cœur même a désappris à aimer, où donc s'accrocher? Et titulaire de la médaille militaire, notre maréchal des logis, Psychéry, regagne Paris en octobre 1907, puis retrouve sa famille. Et le souvenir de la prière musulmane, le contact avec Jacques Maritain et sa jeune femme, Raïcha Maritain, récemment baptisée, mais surtout la nostalgie de l'Afrique en font un autre homme. Il écrit, maintenant, je ne vois pas d'emploi plus digne de la vie que de partir vers les pays lointains et d'user ses chaussures sur des terres nouvelles par-delà les mers et les océans. Nous avons bu à cette fontaine de jouvence qui redonne l'énergie au cœur amolli et qui tend les êtres à leur plus haut diapason. Et son congé de 6 mois expiré, Psychéry prépare l'école de Versailles d'où il sort officier. Nous verrons tout à l'heure la suite. Il rêve aussi d'écrire un roman, Il dit un roman sans amour, sombre et rude, le roman du soldat. Qu'est-ce que ce sera? Mais ce sera l'appel aux armes, ça, c'est le titre, l'appel aux armes. C'est très important ce qu'il dit. Ce n'est pas le dogme qui m'attire dans la religion, mais une des formes du traditionnalisme auquel il faut que nous revenions bien vite si nous ne voulons pas disparaître. Au fond, ce n'est pas nécessairement l'ossature très importante de la foi qui l'intéresse. C'est la chair, c'est la charité, quoi. C'est l'amour, c'est le tout ce qui jaillit du dogme, finalement. Hein. Or, l'appel aux armes, c'est le roman de la fidélité militaire, et une autre fidélité va bientôt le solliciter. En février 1910, le lieutenant Ernest Piscary quitte Saint-Louis du Sénégal. Il se dirige vers l'Adrar, et Piscary, on peut dire que ce n'est plus le jeune homme trop sensible qui réclamait un dépaysement pour apaiser son cœur, comme on vient de le voir tout à l'heure. Il dit d'ailleurs, « N'est pas en moi de volonté plus arrêtée, de plus ferme propos, que d'aller maintenant à travers le monde, tendu sur moi-même, décidé à me conquérir moi-même par la violence. » Parce que je sais que de grandes choses se font par l'Afrique. Je peux tout exiger d'elle, et je peux tout, par elle, exiger de moi. Parce qu'elle est la figuration de l'éternité. J'exige qu'elle me donne le vrai, le bien, le beau, et rien de moins. Alors, au cours de son expédition au Congo, Piscary avait déjà pris contact avec l'âme musulmane. Hein. Il avait entendu, à l'heure de la prière, ce grand cri de l'islam, comme il dit, si émouvant dans sa morne ferveur. Vous savez, le chant des muezzines, au haut des minarets. Et en Mauritanie, il retrouve cette ferveur brûlante. Les hommes qu'il rencontre sont des hommes qui méditent et qui prient, et qui s'informent, comme d'une chose très importante, de la religion des Nazaréens, de ceux qu'ils appellent les Roumis. Un jour, je vous parlerai de ce grand saint musulman qu'on appelle Roumi, d'ailleurs. Et ces noms qui identifient la France avec la chrétienté gardent comme un écho au lointain des croisades. Alors les jeunes, comme le jeune Mohamed Fadel, qui l'interroge, il demande à Ernest Piscary, « Est-ce que vous, Français, vous croyez en un seul Dieu ou en trois ?» Un autre jour, c'est Sidia qui questionne. « Je sais qu'Issa, Jésus, est un grand prophète, mais que dites-vous de lui, vous autres Nazaréens ?» Eh bien, Piscary, qui n'est pas croyant, n'hésite pas une minute. Il répond, « Issa n'est pas un prophète. » Mais écoutez bien ça, il est comme Saint-Pierre. « Mais en toute vérité, il est le Fils de Dieu. » Il parle comme Saint-Pierre. Formidable, et il développe l'histoire du Christ et de la rédemption. Alors l'émotion le fait trembler sa voix. Il dit, « Apprends donc au Sidia, c'est le nom du jeune homme, que pour servir ce maître, nous donnerions volontiers notre vie. » Il ne pouvait pas parler en meilleur chrétien. Il dit, « Je savais bien que je mentais, mais je savais aussi que j'eusse menti bien davantage si je n'avais pas confessé la vérité de mon Dieu. » Alors là, la grandeur de la France est pour l'instant son seul dogme, mais ce n'est plus la France des sophistes et des faux savants, des Anatole France et des autres. C'est la France vertueuse, pure et simple. Nul ne la peut comprendre pleinement s'il n'est chrétien, écrit-il. On voit que la grâce l'assiège de toutes parts, mais c'est aussi parce que là-bas, au-delà du désert et de la mer, on prie pour lui. Une carte, d'ailleurs, lui arrive de la Salette où Jacques Maritain et sa femme, Raïcha Maritain, font un pèlerinage. « Nous avons prié pour toi sur la montagne sainte. Il semble qu'elle pleure pour toi, cette Vierge si belle, et qu'elle te veut. Ne l'écouteras-tu point ?» Un jour, c'est entre le 25 décembre et le 20 janvier, il connaît une de ces minutes qui reste ineffaçable, dit-il. Il errait à l'heure chaude de midi, cherchant un peu d'ombre, et dans le lit desséché d'un oued, un arbre se dressait. Il s'arrête au pied de cet arbre et soudain tombe à genoux pour la première fois de sa vie. Il tombe à genoux. Il adore, enfin, le Dieu qui se manifeste à lui. Rien de violent, mais une certitude profonde. J'étais bien sûr que je serais un jour chrétien. Un matin, dans le silence de la paix, d'un très beau paysage, un des habitants de la Mauritanie, un mort, s'écrie « Dieu est grand ». Et Ernest Piscary écrit « Oh, comme ce mot me fit du bien. Je connaissais enfin que ma joie n'était pas l'illusion d'un civilisé. » Dès son arrivée à Paris, il voit Jacques Maritain et se déclare à lui comme un catholique sans la foi. Mais ce n'est que le dernier sursaut du vieil homme. Hein. Dès le 13 janvier 1913, on est à la veille de la guerre, là, il écrit dans son journal intime « C'est très beau, viens à moi, mon Seigneur et mon Dieu. » C'est le cri de l'incroyant, mais celui qui veut croire quand même, qui veut quitter son désert, pour que son désert devienne tout à coup tout lumineux et habité de cette lumière ineffable qu'est Dieu. Et le 21 janvier 1913, il écrit « Je supplie Jacques aujourd'hui de me faire connaître un prêtre qui puisse m'entendre. » Un dominicain, le fameux père Clérissac, sera donc pour Ernest Piscary cet ami. La conversion de Piscary, on serait tenté de dire qu'elle a été menée militairement. Et le 31 janvier, donc quelques jours plus tard, il voit le père Clérissac pour la première fois à Versailles. Une longue promenade dans le parc de Versailles avec le père Clérissac. Et de même, le 3 février, quelques jours plus tard, Piscary a appris avec joie que son baptême grec était valide, grec orthodoxe. Il ne lui sera demandé qu'une profession de foi, qu'il prononcera le 4 février dans le petit oratoire de Jacques Maritain et de sa femme. Car ils avaient un oratoire chez eux, ils avaient le droit. Hein? Vous savez qu'ils vivaient dans la chasteté la plus absolue, étrange, par une recherche de pureté totale et de don d'eux-mêmes à Dieu. Puis, Ernest Piscary se confesse, et ses amis sont frappés de sa physionomie nouvelle. On écrit que c'est Reich Samaritain qui écrit ça, son visage, ses yeux sont neufs, lavés d'une eau du ciel. Et le samedi 8 février, il a 29 ans, 8 février 1913, il est confirmé. Le lendemain, il fait sa première communion. L'après-midi de ce jour, le père Clérissac, Jacques Maritain et Ernest Piscary s'en vont en pèlerinage à Chartres, la cathédrale élue de nos dévotions, écrit encore Reich Samaritain. Ah, aller à Chartres! J'avais envoyé mon fils en Europe comme ça, mon pauvre garçon qui n'avait que si peu d'instruction. Il était allé à Chartres, il m'avait rapporté un si beau cadeau, il était fou d'être allé à Chartres, il avait tellement aimé ça dans sa naïveté, c'était si beau ce qu'il me disait de Chartres. Mais comme dans les mystères du Moyen-Âge, tandis que se déroulait parmi les hautes sphères de l'amour, écrit-on, et de la connaissance, le drame de Piscary, un autre drame se jouait en bas, dont les tristes résonances le navraient sans le troubler. De quoi est-il question dans ce texte? Il est question du divorce de ses parents. Ce vieux foyer de ses parents, qui lui paraissait, quand il était au loin, comme le symbole même de la fidélité, bien ce foyer s'écroulait. La douleur des enfants devant le divorce de leurs parents est quelque chose qui ne s'exprime pas. Ça s'explique pas non plus. Il ne nous appartient pas d'ailleurs de retracer toutes les péripéties de cette histoire épouvantable. Je retiens seulement une ligne d'Ernest Piscary dans une lettre au père Clérissac. « Ma mère est depuis ce matin une pauvre vieille femme abandonnée. » C'est effrayant. Hein? Mais comment lui avouer à cette maman qu'il aime passionnément, qui est si malheureuse, comment lui avouer qu'il est devenu catholique, la fille de Renan, elle est la fille de Renan, elle est protestante, hein? Ben, c'est-à-dire, sa mère était protestante, elle était... c'était épouvantable pour elle. Est-ce qu'elle va souffrir, s'irriter de la conversion de son fils? Mais Ernest Renan ne le craint pas parce qu'il dit elle-même, au point de désirer tout ce qui peut faire du bien à ma vie. Alors il se décide, il dit, « Maman, il faut que je te le dise, je suis devenu catholique et j'ai fait ma première communion. Peut-être que cela va te contrarier. » Alors, elle ne paraît pas très surprise, parce qu'une mère qui aime à ce point son fils, on le sait tous, hein, elle devine toujours ce qu'on pense lui cacher. Je me souviens, moi, j'avais pensé cacher des choses à ma mère, puis je me suis rendu compte en les lui avouant qu'elle connaissait tout. Alors, la mère d'Ernest Piscary répond au contraire, « Tu as eu raison, puisque tu croyais devoir le faire. » Alors elle s'en va chercher dans sa boîte à bijoux la petite croix d'or du baptême d'Ernest Psychary, cette croix d'or qu'il avait reçue quand il avait été baptisé grec-orthodoxe. À une autre femme aussi, bien, Ernest doit la merveilleuse confidence, c'est cette Jeanne Maritain qui a été libérée d'un mariage qui n'était que civil, puis ça l'avait meurtri ce mariage. Jeanne est seule avec une petite fille de 5 ans ou 6 ans qui s'appelle Nine. Jeanne aussi est convertie au catholicisme. Alors, il écrit « Je lui annonce la grande nouvelle ». Elle me met ses bras sur les épaules et je sens qu'elle tremble de tous ses membres. Puis elle me parle du passé et du mal qu'elle m'a fait et des prières qu'elle a faites pour moi. C'est dans son journal intime, ça, du 4 février 1913. Alors il se revoit souvent. Notre officier, qui adore les enfants, devient le grand ami de cette petite Nine, et qu'il l'appelle Xipari. Elle n'est pas capable de dire Psychary. Et cet enfant est d'une piété ravissante. Alors Jeanne Maritain copie pour Ernest les mots touchants de sa petite fille. Ils sont libres tous deux. Ils sont tous deux épris de la même vérité chrétienne. Et dans l'entourage d'Ernest, on semble croire qu'ils vont enfin se marier. Ils assistent ensemble à la messe. Et il avoue, je mêle le plaisir d'une amitié humaine à la joie la plus haute que puisse éprouver un chrétien. Et c'est vrai qu'un couple chrétien éprouve des joies à nul autre pareil. Hein? Quand deux vrais chrétiens s'aiment d'un amour humain total, magnifique, la sanctification que leur accorde la grâce de la présence du Christ, l'action de l'Esprit-Saint transforme ce couple, on les voit, moi j'en ai connu beaucoup, c'était merveilleux. Je pense à mon frère aîné, c'était extraordinaire, quel couple admirable, ils ont formé. Et tandis que Jeanne Maritain voit en lui son idéal humain et qu'elle attend qu'il se déclare, eh bien voilà que Ernest, insensiblement, lui continue son ascension de consacré à Dieu. Sur l'agenda où il note ses pensées quotidiennes, une page s'intitule « Récapitulation ». Et Ernest Psychary a simplement écrit sur cette page « Dieu et c'est tout ». Il se sent voué à la vie monastique. Et la notoriété, pourtant, vient de surprendre, parce que son livre, « L'appel aux armes », a paru en feuilleton dans un journal qui s'appelle « L'Opinion ». Mais ce roman, qui est vieux déjà de 2 ans, ne correspond plus à ses sentiments actuels. Il s'est converti. Il hésite à le faire paraître en volume. Alors le père Clérissac lui dit de le publier quand même. « Afin de montrer les préparations éloignées, dit-il, de l'œuvre divine dans une âme qui est encore fermée. » Alors de Mauritanie, il a rapporté aussi le récit de son voyage, qui est en même temps le journal de son itinéraire spirituel. Ça s'appelle « Les voix qui crient dans le désert ». Et ce livre est commencé par un incroyant, mais c'est un chrétien qui l'achève, imaginez. Ses pages lui paraissent trop intimes. Il répugne à raconter sa conversion. Et c'est encore le père Clérissac qui le décide à rédiger à la troisième personne toute une transposition de ce livre. Et dans « Le voyage du centurion », qui a été publié après sa mort, très beau livre que je vous recommande. Bien, Maxence, c'est le prénom qui a été suggéré par le père Clérissac, et qui est au fond Ernest Psychary. Bien, Maxence est le pseudonyme tout à fait transparent de notre Psychary. L'appel aux armes remporte un véritable succès. Les plus grands noms de la littérature signent des lettres enthousiastes. Ernest Psychary en est tout naïvement heureux. Il est très simple. Au fond, il s'amuse à amonceler toute cette gloire sur les genoux de sa mère. Des amis font campagne en vue d'un grand prix de l'Académie française. Non, Ernest se prête mal à tout ce jeu. Il écrit « En toute grâce, en toute vérité, en toute sincérité, comme tout cela m'est égal, je le dis devant Dieu, mon seul désir sur cette terre... » Écoutez bien, ça c'est très beau, hein? « Mon seul désir sur cette terre est d'avoir la foi, l'espérance, et la charité des saints. Mon seul désir est de mourir pour le nom adoré de notre Seigneur, s'il veut bien de nous pour ses martyrs. Mon seul désir et ma seule pensée sont le paradis. » Il écrit ça le 30 mai 1913. C'est merveilleux. Et le 2 juin, bien, il rejoint sa garnison à Cherbourg. Ceux qui dirigent sa vie spirituelle, le père Clérissac et l'abbé Ouivet, qui est curé de la paroisse, de sa paroisse normande, pense que le jeune homme est appelé au sacerdoce et dans son humilité, il n'y a pas encore pensé. Alors, il considère la question et sa mère, si douloureuse, comment porter ce nouveau coup? Alors, un mot qu'il hasarde à ce sujet la bouleverse. En octobre, il décide de faire une retraite chez les Dominicains de Hollande. Et cette fois, c'est la petite sœur Corrie qu'il appelle tendrement Flipote, tandis qu'elle le nomme Flipo. Ben, c'est Corrie qui éclate en sanglots. Elle aussi, elle sent que son frère lui échappe. Cette maison de silence, de prière et de paix séduit profondément Psychary. Il lui semble que l'ordre dominicain, à la fois intellectuel et mystique, réponde aux vœux secrets de sa nature. Et en attendant mieux, peut-être, il devient membre du tiers-ordre dominicain. Alors là, les derniers mois que Psychary passera sur la terre sont lourds de bonnes œuvres. Il s'est fait inscrire, je vous recommande à quiconque se demande quoi faire de son temps, il s'est inscrit à la conférence de Saint-Vincent. Paul, ça existe ici à Morel dans bien des paroisses. Hein. Il visite régulièrement ses pauvres, ou plutôt ses amis, comme il dit. Il écrit « Je viens voir Madame Toupet ». C'est une repasseuse qui est mère de beaucoup d'enfants. Il dit « Je viens voir Madame Toupet dans le but de lui faire du bien ». Mais c'est elle, en réalité, qui m'en fait. Et c'est moi qui me semble humble et misérable devant elle. Son règlement de vie est digne d'un religieux. Il communie tous les jours, quand son service lui en laisse la possibilité, évidemment. Il récite même le fils liturgique, le parti du bréviaire. Hein? Il dit son chapelet. Oui, il dit son chapelet. Lui, un intellectuel. Il fait sa lecture spirituelle. Il prie sans cesse. Et dans le même temps, il rédige, d'après ses écrits, les voix, là, il rédige le voyage du centurion. Et dans une lettre à Paul Bourget, qui en fera la préface d'ailleurs, nous relevons ce mot, c'est un tremblement que d'écrire en présence de la très sainte Trinité. Quelle foi il avait, hein? Mais où est-ce que tout ça va le mener, hein? Il ne sait pas encore avec certitude, on a dit un peu trop, qu'il voulait racheter les erreurs de son grand-père Ernest Renan. Bon, sans doute, il a pris à la confirmation, quand il s'est fait confirmer le nom de Paul, en réparation des ironies d'Ernest Renan sur le laid petit juif. Il écrivait de Saint Paul ce laid petit juif. C'est Ernest Renan qui écrivait ça. Hein. Sans doute, il prouvait une grande angoisse au sujet de l'âme de ce grand-père, hein, parce qu'il l'avait bien admiré dans son enfance, mais il s'en inquiétait. Quelqu'un lui a dit un jour, Renan est sûrement en enfer. Alors là, un dominicain, le père Janvier, assure le petit-fils qui est torturé par cette affirmation. Il dit, pourquoi penser cela? Vous donnez bien vite les gens. Il ne faut pas mettre des bornes à la miséricorde de Dieu, car on sait que des gens sur leur lit de mort se convertissent. Souvenez de cette histoire du curé d'Ars, cette femme qui disait, ah, mon fils s'est suicidé, s'est jeté en bas d'un pont, il est en enfer. Et le curé d'Ars lui disait, mais madame, entre le pont et l'eau, il s'est amendé, et il a demandé pardon à Dieu. Alors, on ne sait jamais, hein? D'autres veulent le persuader de se faire prêtre en Bretagne pour remplacer Ernest Renan. Mais Renan n'a jamais été prêtre, de toute façon. Il n'a reçu que les ordres mineurs. Il a quitté librement, honnêtement, comme le font chaque année plusieurs séminaristes, hein, on voit ça. Et le séminaire où il était entré, il n'avait pas la vocation quand il est entré au séminaire, Ernest Renan. Et qui sait? Peut-être que Renan n'a pas été prêtre afin que naisse de lui, au fond, ce saint que fut Psychary, car à mon avis, c'est un saint. Oh, je le proclame. J'attendrai bien que l'Église le proclame. Je dis ça avec toute réserve. Hein. Nous ne voyons ici-bas que l'envers au fond de toute la tapisserie. Hein. Et à Cherbourg, Psychary fête son unique Noël chrétien. Il écrit le 8 février 1914... au père Clérissac, qu'il a admis dans l'Église, « Voici donc que s'achève ma première année chrétienne. Il y aura demain juste un an que vous m'avez fait entrer, par la grâce de notre Seigneur, dans la vie eucharistique, dans la vie eucharistique, la seule qui mérite vraiment ce nom de vie. » Oh, je ne serai jamais assez insisté sur ces paroles admirables. « Je ne puis penser, dit Ernest Psychary, sans tremblement à ces jours bénis, à toutes les joies qui les ont suivies, à ce doux envahissement de la lumière qui, de jour en jour, grandit dans l'âme qui s'est donnée à Jésus-Christ. » Comme il a raison, hein, comme il a raison, vous tous qui vous êtes donnée à Jésus-Christ, vous le savez. Alors, si on pouvait partager notre joie avec chacun des gens, des personnes, chacune des personnes que nous rencontrons. Et le 2 août 1914, la guerre est déclarée. Le 6 août, le 2e d'artillerie coloniale quitte Cherbourg. Psychary remet à l'abbaye où il vit le manuscrit du voyage du centurion qui sera publié en 1916. Si je meurs, vous pourrez en faire ce que bon vous semblera, le brûler si vous voulez. Et l'abbé lui dit, vous reviendrez le chercher quand vous nous rapporterez l'Alsace dans une main et la Lorraine dans l'autre. Il lui dit, monsieur le curé, je suis certain que l'Alsace et la Lorraine reviendront à la France, mais je doute bien de voir ce retour sur la terre. Par exemple, je suis sûr de le voir du haut du ciel. Et il s'agenouille, monsieur le curé, voulez-vous me donner votre bénédiction? Or, le 22 août, c'est aujourd'hui le 22 août, près du village de Rossignol, en Belgique, au bord d'une route plantée de grands arbres, il y a une pièce qui est en batterie. On a dit, il faut tenir, et on tiendra jusqu'à la mort. Un officier est blessé, car il soutient jusqu'au poste de secours, et revient en souriant, au pas de gymnastique, vers ses canonniers, et tout à coup, une rafale de mitrailleuses là-bas. Il a au bras son chapelet, sous une vareuse le scapulaire de Saint-Dominique, à son cou, la petite croix d'or de son baptême. Et c'est à ces signes sacrés qu'on identifiera les restes d'Ernest Psychary. Il y a une anecdote d'ailleurs fort intéressante, car lorsque le vieux Ernest Renan, son grand-père était à Athènes, c'est Émile Gébard qui lui a servi de guide, qui raconte cet événement étonnant. Bien, Ernest Renan n'a pas éprouvé tellement d'émotion devant l'acropole. La prière fameuse là qu'il a été écrite après coup. Il avait demandé à son guide qu'on le conduise plutôt à l'aréopage. Pourquoi? Parce qu'il dit « le rocher où saint Paul a parlé ». C'est Ernest Renan qui dit ça. « Le rocher où saint Paul a parlé ». Vaut mieux pour l'histoire que la tribune de Démosthène. Et devant le paysage grandiose qui s'offrait à ses yeux, ben, il a murmuré les paroles de l'apôtre Paul. Ubi spiritus Dei, ibi libertas. Ce qui veut dire, retenez bien cette parole magnifique de saint Paul, dans la bouche d'Ernest Renan, la liberté se trouve où souffle l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu a soufflé au cœur d'Ernest Psychary qui termine le voyage du centurion. Je le lis dans le livre que j'ai dans mes mains, un livre précieux. Il écrit ceci, « Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. » Quelle est belle la première prière, qu'elle est bénie et précieuse au Seigneur, que les anges du ciel l'écoutent avec joie. Allons, pauvre homme, relève-toi, voici que Jésus n'est pas loin, et qu'il va venir et qu'il ne peut tarder. Déjà, tu regardes avec tranquillité la terre de la réconciliation et le soir de ta consolation. Reprends ta route. Espère dans la plénitude de ton cœur et dans la force de ton âge nouveau. Et le reste sera donné par surcroît. Et voici les deux dernières lignes de ce livre. Mais quoi, Seigneur? Est-il donc si simple de vous aimer? C'était publié 2 ans après sa mort. Que c'est beau, hein? Ernest Psychary, mort à l'âge de 40 ans, fauché à la guerre. Mais je vous ai dit au début que c'était la fête aussi de Marie comme reine. C'est Pierre Damien, docteur de l'Église, qui a vécu au 11e siècle, qui écrit « Parfaite fille d'Israël ». Fleur rutilante de la royale maison de David, reine du ciel et reine du monde, sous ton sceptre et ta royauté s'inclinent et obéissent toutes les puissances. N'es-tu pas à la fois épouse et mère de ce roi, à qui toute puissance fut donnée? À cette toute puissance suppliante et maternelle, mais aussi réelle qu'efficacement authentique, serait-il possible que la divine puissance puisse s'opposer? Tu t'avances. Non seulement tu demandes, mais tu commandes. Te voilà reine et non plus servante. Et j'aime bien ce poème de François Villon que nous apprenions au Collège Brébeuf quand j'étais jeune, quand j'avais 15-16 ans. C'est le poème qu'il a écrit, François Villon, au 15e siècle, à la requête de sa mère pour prier Notre-Dame. C'est la ballade pour prier Notre-Dame. Écoutez bien, c'est très beau. Ça te rappelle tellement de vieux souvenirs à tous ceux qui ont appris ça par cœur autrefois. « Dame du ciel, régente terrienne, empereur des infernaux palus, recevez-moi, votre humble chrétienne, que comprise soit entre vos élus, ce nonobstant qu'on que rien ne value. » Reine des apôtres, soutien du ministère sacerdotal, Marie a droit à la dévotion filiale des prêtres. Et la bienheureuse Vierge Marie, reine des apôtres, est l'exemple parfait de la vie spirituelle et apostolique. La Vierge Immaculée est exaltée par le Seigneur comme la reine de l'univers. Et je voudrais terminer par une très belle prière que l'on retrouve dans ce beau livre Marie, prière. Ce sont des textes choisis, présentés par Jean-Pierre Dubois-Dumay et parus chez Desclés de Brouwer. Oui, le Seigneur est grand. Je veux chanter pour lui. Lui, mon Sauveur, m'a regardé, moi qui suis si petite, et mon cœur bondit de joie. Hier, aujourd'hui et demain, le monde entier parlera de mon bonheur parce qu'en moi, Dieu a fait de grandes choses. Oui, le Seigneur est saint, il se donne à tous les hommes droits. Pour eux, il montre sa force. Les orgueilleux, il les fait taire. Les oppresseurs, il les renverse. Mais les pauvres, il les relève. Aux affamés, il donne l'abondance et il vide les mains des riches. Ce que nos pères avaient espéré, il nous l'a donné. Ce qu'il avait promis, il l'a fait.